Nous en sommes à la deuxième journée intensive de l'automne 2025 au Centre Zen de Montréal. J'aimerais aujourd'hui lire et commenter le 11e koan du Mumon Kan, Joshu et les ermites. Je commencerai par une courte histoire. Elle est racontée par Robert Aitken, qui a été l'un des grands maîtres du zen américain dans son livre « The Gateless Barrier ». Il écrit ce qui suit. L'autre jour, au lave-auto McKinley, je venais de fermer la radio de mon auto, car l'un des préposés Samoa s'apprêtait à y passer l'aspirateur. La météo annonçait que l'île d'Hawaï allait bientôt être frappée par un typhon. Et il me demanda si j'avais des nouvelles à ce propos. Je lui répondis, « Ils disent que le typhon est actuellement immobile, au sud de l'île. » Il me dit alors en souriant, « Il attend peut-être de voir ce que nous allons faire. » Et Aitken continue en disant, « Voilà la doctrine de l'interdépendance du Bouddha, exprimée en toute simplicité. » Comme c'est souvent le cas dans notre vie, elle vient de là où on ne l'attend pas. Les bodhisattvas sont partout dans notre vie. Nos amis et les membres de nos familles nous guident sur la voie. Et par leur bouche, les tout jeunes enfants et nos bien-aimés, tout comme les piétons dans les rues, parlent de sagesse, dit un texte ancien. C'est là l'un des thèmes fondamentaux du koan que nous allons étudier aujourd'hui. Il se lit comme suit. Joshu se rendit à la cabane d'un ermite et demanda, « Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? » L'ermite leva le poing. Joshu dit alors, « L'eau n'est pas assez profonde ici pour jeter l'âme. » Et il repartit. Il se rendit à la cabane d'un autre ermite et demanda, « Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? » L'ermite leva le poing. Joshu dit alors, « Libre de donner, libre de prendre, libre de vivre, libre de tuer. » Puis il s'inclina. Il n'était pas inhabituel à l'époque de Joshu, soit au cours des 8e et 9e siècles de notre ère, de voir des maîtres zen s'établir hors des monastères, dans de pauvres ermitages en forêt. C'était là l'une des pratiques iconoclastes du zen, qui tranchait évidemment avec le faste des institutions bouddhistes de l'époque. Les monastères zen étaient depuis toujours modestes et autosuffisants. Ils s'étaient établis loin des grands centres. On les trouvait dans les campagnes, près de la vie paysanne. Ils passaient, pour ainsi dire, inaperçus, ce qui leur permit de surmonter les persécutions politiques qui détruisirent de manière effective à cette époque toutes les autres écoles du bouddhisme en Chine. Dans le koan que nous étudions, Maître Joshu, qui est l'un des grands maîtres du zen, rend visite à deux ermites établis dans des ermitages en forêt. Il leur demande, « Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? » Et les deux ermites lèvent le poing en guise de réponse. Joshu dit alors du premier, « L'eau n'est pas assez profonde ici pour jeter l'âme. » Et du second, libre de donner, libre de prendre, libre de vivre, libre de tuer. Une même question, une même réponse, mais deux commentaires différents de Joshu. Des commentaires qui paraissent même s'opposer face à l'unique réponse donnée par les deux ermites. Que se passe-t-il ici? M. Lowe nous rappelait souvent que tous les koans ont un nœud ou une contradiction. Quel est le nœud de ce koan? Il repose évidemment sur le fait que Joshua donne deux réponses opposées. Il semble désapprouver la réponse donnée par le premier ermite, la trouvant superficielle et manquant de profondeur, indigne que l'on s'y attarde. À l'inverse, il semble approuver la réponse du deuxième en disant « libre de donner, libre de prendre, libre de vivre, libre de tuer ». Il s'agit pourtant d'une seule et même réponse. Pourquoi Maître Joshua réagit-il ainsi? Voilà le dilemme que nous présente ce koan. Mais revenons un instant à la question que pose Maître Joshua. Y a-t-il quelqu'un? Comme elle semble innocente et inoffensive, cette question. Imaginez maintenant que Maître Zen se tienne devant vous, vous regarde dans les yeux et vous demande, y a-t-il quelqu'un? Que répondriez-vous? C'est un peu comme si l'on vous demandait « Êtes-vous quelque chose? Êtes-vous quelqu'un? » Vous savez tous, et vous le savez intimement, que c'est l'une de nos plus profondes convictions et qu'elle se trouve à la racine même d'un mal de vivre personnel et collectif qui nous affecte tous. L'on nous a persuadés que nous étions quelque chose. Et nous l'avons cru. L'on nous a donné des mots pour en parler. Un enfant, un adolescent, un adulte, un homme, une femme, une personne, un individu, une âme et combien d'autres. On nous a encouragé à nous auto-évaluer, en bien ou en mal, à croire que nous pouvions être inférieurs ou supérieurs aux autres, à redouter avec angoisse d'être jugés, à rechercher l'approbation des autres, croyant y trouver la preuve de notre valeur personnelle. Et combien d'autres choses encore. Et nous avons adopté ces idées comme si elles allaient de soi. Je suis quelque chose et je vis dans un monde qui est là-bas, pour ainsi dire, quelque part à l'extérieur de moi. Je vis avec d'autres êtres humains, mais séparés d'eux. Je suis distinct. Unique. Comme l'écrit Hubert Benoît dans son livre « La doctrine suprême selon la pensée zen », ma condition égotiste, qui comporte la fiction de ma divinité personnelle, me fait considérer comme vide de sens ma vie biologique et toutes les actions par lesquelles je sers cette vie. Elle me porte à ne prêter du sens qu'à celle de mes actions qui me distinguent. Je ne compte pas mes yeux en tant que je suis un être vivant comme les autres. Je ne compte qu'en tant que je suis moi, un moi particulier et unique. Nous le savons tous et toutes, n'est-ce pas? Nous l'avons tous appris et tous, nous l'avons cru. Mais nous sommes blessés, profondément divisés en nous-mêmes, presque coupés en deux. Nous disons que nous existons en tant qu'être unique. Mais le mot « exister » lui-même vient d'une racine latine « ex stare » qui signifie « résider hors de ». Nous résidons hors de nous-mêmes, hors de ce que nous sommes. Et nous nous cherchons partout, en nous et hors de nous, là où tout apparaît et disparaît sans cesse. Nous sommes profondément divisés en nous-mêmes, et nous le pressentons à travers le mal de vivre que nous traînons comme une ombre. Nous crions en silence, « Qui suis-je ? » Et c'est sans doute là le koan le plus fondamental des êtres humains. Et Joshua nous demande, y a-t-il quelqu'un? Il le demande à chacun d'entre nous. Il ne sert à rien de donner ici une réponse zen, toute faite, glanée ici ou là dans un livre ou un thé chaud. Regardez simplement en vous. Croyez-vous que vous êtes quelque chose? Y a-t-il en vous quelqu'un? Vous n'avez pas à le dire à voix haute, mais ne vous mentez pas à vous-même. Ne prétendez pas que vous êtes libre si vous ne l'êtes pas. Jeff Shore nous disait souvent, « What remains? Que reste-t-il? Cherchez-vous toujours à atteindre quelque chose ou à vous libérer de quoi que ce soit? Croyez-vous qu'il manque quelque chose? En zazen, accueillez simplement tout ce qui se manifeste en vous. N'en refusez rien. Soyez présent à tout ce qui est. D'instant en instant, laissez tout brûler dans cette présence. N'en retenez rien. Il n'y a rien à retenir, rien à changer. Et face à la question de Joshua, les deux ermites lèvent le poing. L'un et l'autre donnent la même réponse, un simple poing levé. Ce poing levé me fait penser à une pierre. À la maison, nous avons un grand jardin et j'ai toujours pris plaisir à y disposer des pierres. J'ai parfois travaillé pendant des heures afin de créer de modestes arrangements de deux ou trois pierres, à l'ombre d'un arbre ou au milieu des plantes. Une pierre, même plutôt petite, a quelque chose de monumental si on la regarde attentivement, quelque chose qui semble la dépasser. Le point levé des deux ermites ressemble à une pierre. Il y a quelque chose d'inébranlable dans ce point levé, comme s'il nous disait simplement « Je suis et rien d'autre ». Un point levé et rien d'autre. Joshua demande « Y a-t-il quelqu'un ?» Et les deux ermites lèvent le poing. Il n'y a ici qu'une seule et unique réponse. Il n'y a pas moi et moi et moi, ni quelqu'un d'autre, ni même une seule personne. Seulement une seule et unique réponse, inébranlable comme une pierre dressée. Dans son commentaire sur ce koan, le maître zen Zenkei Shibayama écrit « Un point levé, rien d'autre. Vraiment splendide. Un point est un point de part en part. Il n'y a là aucune place pour la moindre discrimination. » La réponse des deux ermites nous dit qu'il n'y a aucune discrimination. Par nature, un point est un point. Une fleur de pommier est blanche de part en part. Et une pierre est toujours et seulement une pierre. Tout est un, parfait, complet. Il n'y manque absolument rien. Où y a-t-il ici la moindre différence? Mais le dire ici est incomplet. C'est comme dire que l'océan et l'eau sont une seule et même chose. Bien sûr, la nature véritable de l'océan est l'eau. Mais lorsqu'on dit ainsi, on oublie de parler des infinies variations de l'eau, que sont les vagues, les courants marins, l'eau froide des profondeurs, les couleurs irisées que l'eau vole à la lumière. L'eau n'apparaît jamais seule. Elle a toujours une forme. ici une vague, là une mer étale ou agitée, ou encore c'est une pluie d'été ou en hiver un peu de neige. Ici, tout est différent. La forme, c'est le vide. Le vide, c'est la forme, nous dit le Prajnaparamita. C'est pourquoi Joshua dit au premier ermite, « L'eau est ici trop peu profonde pour y jeter l'ancre. » Et au second, « Libre de donner, libre de prendre, libre de vivre, libre de tuer. » Il n'y a qu'une seule réponse, un point levé. Mais ce point levé est parfois une eau peu profonde. Et parfois, la liberté de donner ou prendre, la liberté de vivre ou tuer. Voilà ce que dit Joshua. Il ne s'est pas laissé enfermer dans l'absolu du point levé par les deux ermites. La différenciation existe en même temps que l'unité. Et Joshua ne s'enferme pas non plus dans les réponses différentes qu'il donne. Il n'en fait pas des vérités définitives. C'est là quelque chose que nous devons peu à peu apprendre. Le Zen ne nous demande pas d'éliminer nos convictions actuelles et de les remplacer par des vérités zen. Il nous amène seulement à voir à travers toutes nos convictions et à aller au-delà. Là où tu croyais hier être quelqu'un, tu en es venu à voir clairement que être quelqu'un, c'est penser quelque chose et rien d'autre. Est-il nécessaire qu'il y ait un penseur pour que les pensées apparaissent? Regardez bien. Elles apparaissent spontanément en vous. Et si vous n'intervenez pas, elle se libère d'elle-même, comme si elle s'évanouissait dans le silence. Vous n'êtes jamais ce que vous pensez. Lorsque Maître Aquin nous dit « hors de nos points de Bouddha », il nous invite à voir qu'il n'y a aucun Bouddha en dehors de nous. Notre nature de Bouddha se manifeste d'instant en instant, à travers toutes nos expériences. Croire que je suis quelque chose est aussi une manifestation de Bouddha. Chaque fois que quelqu'un nous parle, Bouddha s'exprime. C'est ce que nous rappelait tantôt Robert Aitken. Les bodhisattvas sont partout dans notre vie. Lorsque Joshua dit « L'eau est peu profonde, ou libre de donner ou prendre, et libre de vivre ou tuer, il n'en retient rien. Il n'y a là aucune vérité, sinon celle de notre vraie nature, qui, comme l'eau, ne cesse jamais de changer de forme. Comme le dit Maître Mumon dans son commentaire, la langue de Joshua est sans os. Tantôt il soutient, tantôt il renverse. » L'on raconte que Maître Joshua aimait citer un poème du troisième patriarche du Zen, intitulé « Inscription sur l'esprit de foi ». En voici les premiers mots. « La grande voie ne connaît aucune difficulté, sinon qu'elle se refuse à toute préférence. Ce n'est qu'une fois libérée des choix qu'elle se révèle pleinement et sans masque. Une différence d'un millimètre, et le ciel et la terre se trouvent séparés. Le point levé est partout, mais n'en retenez rien.